Vous écoutez France Culture.
Bonjour. La loi actuellement en discussion pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Allure, cherche à combattre les effets désastreux que la spéculation immobilière impose à la satisfaction d'un droit pourtant essentiel, le droit au logement. Elle va créer des coopératives d'habitat qui confèrent enfin un statut juridique à une propriété immobilière collective, c'est-à-dire qui n'est ni privée ni publique. Mais l'on peut se demander si le véritable enjeu n'est pas ailleurs, s'il n'est pas dans l'effort de soustraire ce nouveau type de propriété à la spéculation immobilière, de le soustraire définitivement. Et donc de trouver les moyens de maintenir cette propriété d'usage, c'est comme ça qu'on l'appelle, dans le temps. Et pour tenter d'y voir plus clair dans cette question à la fois difficile et essentielle, le bien commun reçoit aujourd'hui Sarah Trudel. Sarah Trudel est secrétaire de l'association Habicop, qui est une association très active dans ce domaine et qui se fixe comme objectif la promotion et l'accompagnement de coopératives d'habitants. Et avec Sarah Trudel, Geoffroy Valadon, qui est le cofondateur d'un collectif appelé La Rotative, et lui aussi très actif dans ce domaine. Sarah Trudel, Geoffroy Valadon, bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Sarah Trudel, en quoi, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'habitants ?
Oui, vous avez parlé de valeur d'usage. Et le modèle de la coopérative d'habitants est fondé sur un rapport assez original à la propriété, puisqu'il propose un angle de vue un peu différent dans lequel la coopérative est propriétaire de logements qu'elle loue à ses coopérateurs, donc les habitants, en échange d'un loyer et d'achat de parts sociales. Donc
quelle différence il y a avec un HLM, avec un habitat social ?
Alors, la différence sur le plan, en tout cas, du statut, c'est qu'on est sur les valeurs de la coopération, que l'habitant a un double statut, celui du locataire individuel de son appartement, mais également du propriétaire du bien collectif, puisque à travers l'achat de parts sociales, l'achat de parts sociales lui confère un fragment de propriété du bien commun.
C'est ça. Vous cherchez, dans ce que vous écrivez, Geoffroy Valadon, vous cherchez à casser ce lien, cet antagonisme propriétaire-locataire. Dans le modèle coopératif, il n'y a plus vraiment de locataire, mais pas vraiment non plus de propriétaire.
Oui, ce que ce statut apporte, en fait, c'est la possibilité de neutraliser complètement ou en partie la dimension capitalistique de la propriété immobilière dans ce cas, pour mettre en avant essentiellement son usage. Et du coup, ce que Sarah Trudel expliquait, c'est que le coopérateur aura tout droit, pleine jouissance du bien, comme un propriétaire classique au niveau des modifications de son appartement, etc. Mais il ne pourra pas mobiliser ce bien comme un capital vendable sur le marché, bénéficiant de plus-value ou de la hausse du cours. Donc ça ouvre quelque chose de différent, à la fois plus qu'un locataire et moins qu'un propriétaire. Et en réalité, ça ne serait pas un terme entre ces deux pôles, ça serait sur une autre ligne, un troisième terme.
Une troisième voie, c'est ça l'objectif que vous recherchez.
Oui, tout à fait. On revendique le tiers secteur de l'habitat entre le logement administré, qui serait le logement social aujourd'hui, et le logement privé, que ce soit locatif ou en accession à la propriété, qui, lui, n'échappe pas à la spéculation immobilière, bien au contraire. Vous l'aurez compris, la coopérative d'habitants a pour valeur fondamentale notamment la propriété collective, mais également la non-spéculation.
C'est ça. Alors, on va revenir, bien sûr, sur cette question de spéculation qui est très importante, mais j'ai cru comprendre que dans l'habitat coopératif, il y a quelque chose de plus, Sarah Trudel. Il y a la volonté d'organiser, de se donner les moyens d'une autre manière de vivre ensemble, d'une autre manière de faire, on pourrait dire, faire village, parce que c'est un mot qui revient souvent.
Tout à fait, parce que finalement, à Bicop, on n'a pas inventé un statut coopératif d'habitants sorti de notre chapeau. On s'est inspiré des expériences à l'étranger, notamment au Québec, en Suisse, également en Allemagne, qui représentent une part assez importante, ou en tout cas suffisamment importante pour faire levier sur le marché du logement.
On parle dans certains pays de 13%, j'ai lu.
Oui, tout à fait. Et puis également, chez nos voisins, en Suisse, 5% du parc immobilier, c'est pas anodin. Et du coup, on s'est également inspiré de ce qui a été fait dans le passé ici en France, parce que le statut de la location coopérative existait avant la loi Chalandon de 1971. Et donc, on a un petit peu repris des éléments pour aujourd'hui créer un modèle de coopérative d'habitants qui s'insère dans ce qu'on appelle, nous, le mouvement de l'habitat participatif.
C'est quoi un habitat participatif ? C'est-à-dire qu'on participe à autre chose que simplement le simple fait d'habiter son logement.
C'est l'idée selon laquelle le citoyen habitant peut participer à la conception, à la réflexion sur la conception de son habitat, mais également à la gestion par la suite, et peut mutualiser un certain nombre de locaux ou de services avec ses voisins dans le cadre d'un projet de voisinage solidaire, ce qui a été fait d'ailleurs dans les projets d'habitat groupé autogéré des années 80. On s'en inspire également, on s'inscrit dans ce mouvement-là. Et c'est vrai que les projets que l'on accompagne, les porteurs de projets en tout cas, ont tous la volonté de partager un certain nombre d'espaces comme la buanderie, les jardins potagers. Ça peut être également un véhicule partagé et tout ça.
Une pièce de réception.
Tout à fait, voilà, une salle d'activité qui permet de faire les fêtes de famille plutôt dans cet espace-là que dans le salon qui est trop exigu. Mais ça reste du logement individuel, c'est pas une vie communautaire, c'est bien un projet que j'appelle de voisinage solidaire dans lequel prévu un certain nombre d'espaces. On s'engage sur une charte de valeurs que l'on a en commun, et notamment les valeurs de la coopération.
Et parfois, même, la coopérative va jusqu'à construire elle-même ce logement, ou cet ensemble de logements.
C'est ce qu'on appelle, nous, l'autopromotion, c'est-à-dire que l'habitant, le futur habitant, est prescripteur et donc maître d'ouvrage de son habitat. Et sous la forme d'une coopérative d'habitants, les habitants sont commanditaires de l'ouvrage. Alors bien sûr, par l'intermédiaire de partenariats, en s'adossant peut-être à des professionnels de l'habitat comme sont les organismes HLM ou des professionnels de l'accompagnement. À Abicop, on a des salariés qui accompagnent des groupes de projets dans leur démarche pour aller rencontrer les financeurs, les partenaires collectivités locales et d'autres opérateurs du logement.
Il y a un mot qui revient sous la plume de tous les écrits qui fleurissent en ce moment à cause de la loi, Geoffroy Valadon, c'est l'expression de démocratie micro-locale. Et on a l'impression qu'il y a la volonté de recréer une vie démocratique, collective, à un tout petit niveau, et un niveau de l'espace physique même qui est celui de l'habitat.
Oui, je dirais que c'est un des intérêts de ce modèle pour expliquer qu'est-ce que ça apporte le fait de sortir de l'alternative propriété publique ou et logement social ou propriété privée. C'est que justement, ça applique le fait que ça vienne de coopératives d'habitat qui sont du coup des groupes relativement restreints, ça peut être une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de personnes. Potentiellement plus, mais actuellement, c'est plutôt ces dimensions-là.
Mais il y a quand même une taille critique, parce que j'imagine que tout cela n'a de sens que par un nombre à dimension humaine.
Tout à fait.
On ne peut pas imaginer un grand ensemble avec des centaines de logements, ça perdrait un peu de
tout
son sens.
Tout à fait. C'est pour ça que ce sont ces chiffres-là pour l'instant. Et ce que ça permet, comme le dit Zarathoustra, c'est de ne pas avoir une production qui est verticale du logement, selon des standards qu'on retrouve autant dans la production privée, la promotion privée que publique. Et là, c'est chaque projet qui va définir ses besoins spécifiques en termes d'usage, mais aussi en termes de conception écologique, selon leur conception et leur implication dans ce domaine, etc. Donc, non seulement dans la conception du bâtiment, mais aussi dans sa gestion au quotidien. Et ce que ça change, par exemple, c'est que puisqu'il n'y a pas un propriétaire qui est externe aux habitants et à la coopérative, s'il y a un problème, mettons, d'impayé, par exemple, quelqu'un qui n'a plus les moyens ou pour X raison ne paye plus, c'est l'assemblée des coopérateurs, une assemblée où chaque personne a une voix indépendamment de son capital, etc. C'est cette assemblée qui va décider comment gérer ce problème. Et du coup, il y aura un aspect beaucoup plus mutualisé et pacifique. Et on recourra nettement moins à des expulsions locatives ou des choses qu'on retrouve dans le marché.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les expériences que vous rapportez, il y a plusieurs expériences en Allemagne, mais même aussi en France, si on pense à l'éco-village du hameau des Buis, dans lesquelles la structuration de cette coopérative se fait non pas avec un organe coopératif, mais deux. Alors là, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi deux organes pour gérer une coopérative d'habitat ?
Alors là, véritablement, c'est le tour de force, on trouve, de ces projets-là. C'est quelque chose qui a été très bien fait en Allemagne par le Miethauser Syndicat.
Vous dire un mot pour nos auditeurs, ce que c'est que le Miethauser Syndicat ?
C'est un ancien collectif de squatteurs qui était extrêmement précaire, puisque régulièrement, il se faisait expulser, et qu'au bout d'un moment, a dit, si on veut se pérenniser, puisqu'on fait des activités qui sont d'intérêt général et et de leur intérêt propre à la fois, comment on peut faire pour se pérenniser ? Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'était l'acquisition. Donc, il fallait rentrer sur le marché. Mais avec leurs idées libertaires, c'était une sorte de reniement. Oui. Du coup, c'est là, face à ce dilemme, qu'ils ont trouvé cette solution de rentrer sur le marché pour y prendre un bien et l'en faire sortir complètement.
C'est ça. Mais alors, il y a cette... l'impression, il y a ce dilemme de la part des groupes alternatifs, en Allemagne du moins, d'après ce que j'ai lu, entre est-ce qu'on rentre dans des formes légales, est-ce qu'on rentre dans le marché, est-ce qu'on reste totalement à l'extérieur ? On ne peut pas rester totalement à l'extérieur, et donc on rentre, mais avec un décrochage.
Oui, alors du coup, le grand intérêt de ce montage, je vais essayer de le faire simple, c'est que le propriétaire est scindé en deux entités. D'un côté, l'assemblée des habitants, qui, pour toutes les questions de gestion du lieu, est absolument souveraine. Par contre, dans l'entité propriétaire, cette assemblée des habitants a une voix et une association qui s'appelle en l'occurrence le Miethauser Syndicat ou qui peut éventuellement être Bicop, etc. Elle a la seconde voix et ne peut pas interférer dans la gestion, mais peut interférer seulement. Voilà, c'est une voix de blocage. C'est un veto qui ne s'applique qu'à une question, qui est celle de la revente spéculative du bien.
Alors, on va venir à la revente, mais ce qui est très intéressant, c'est les similarités avec le système politique national. On pourrait dire qu'il y a une sorte de bicaméralisme coopératif, de façon, avec le même mécanisme de droit de veto, d'organes de surveillance, un peu d'organes tiers en cas de difficulté. Parce que j'imagine, Sarah Trudel, que on décrit la phase heureuse de l'habitat coopératif, mais il y a aussi quand même dans les habitats coopératifs comme partout, et j'imagine qu'il y a des mauvais payeurs, il y a des mauvais voisins, des mauvais coucheurs. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Oui, enfin, vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'on s'inscrit dans le droit existant, et c'est ce qu'a choisi de faire le Miethauser Syndicat, en détournant un petit peu un statut juridique qui est fait à la base pour le marché.
En exploitant toutes les ressources du droit, mais ça c'est très contemporain, en exploitant toutes les ressources du droit pour finalement sortir autant que faire se peut des catégories juridiques.
Oui, et c'est vrai qu'à Bicop, le statut de la coopérative d'habitants qu'on a souhaité promouvoir et d'ailleurs inscrire dans la loi, notamment la loi Allure, prévoit justement cette double qualité, coopérateur-locataire, qui lie vraiment le contrat de coopérateur et le contrat de location, qui fait que lorsqu'il y a un manquement aux obligations de locataire, notamment le non-paiement du loyer ou le non-respect du règlement intérieur, qui finalement va faire intervenir le droit commun de la location, du bail d'habitation, mais également qui va faire perdre le statut de coopérateur à cet habitant qui aurait fauté.
Et qui pourra réclamer ses droits à ce moment-là.
Et qui pourra réclamer effectivement ses droits, mais en fait au même titre que un locataire qui va invoquer le code de la construction et de l'habitation ou la loi relative aux baux d'habitation, ou la loi de 47 sur la coopération, s'il en va de son contrat d'associé.
C'est ça. On retrouve quelque chose qu'on a vu d'ailleurs un peu, qui était un peu le problème de la crèche Babylou, entre parenthèses. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une association qui demande à ses membres de renoncer à une partie de leurs droits ou de leur liberté civile pour réaliser un projet ? Qu'est-ce que c'est qu'une association qui... C'est ça la difficulté, Geoffroy Baladon. Comment est-ce qu'on résout cette difficulté ?
La première réponse, c'est que si les membres de cette association ou de cette coopérative ont fait un choix volontaire pour y adhérer ils n'aliènent pas véritablement leur liberté ou leurs droits, mais surtout que dans le cas des coopératives d'habitants, c'est une dimension constitutive. Dès lors, ce n'est pas quelque chose d'accidentel ou d'adjacent.
C'est ça.
C'est fondamentalement, si on adhère à ce type de projet-là, c'est qu'on accepte cette dimension.
Oui, c'est ça. Mais alors, là, c'est constitutif, mais alors quid de la sécession? Et je crois qu'une des grandes difficultés, c'est bien sûr celle de savoir qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on n'est plus d'accord, lorsqu'on est soit qu'on est fâché, soit que un propriétaire décède ou s'en va. Et donc, comment est-ce qu'on évite un retour à la spéculation immobilière ou au droit commun?
Oui, alors du coup, Sarah Trudel. C'est tout l'enjeu des débats qui ont eu lieu, des discussions qui ont eu lieu sur la loi Allure. Alors plutôt sur notre partie à nous, qui a trait à l'habitat participatif, et notamment le petit article qui permettrait d'encadrer justement le prix de cession des parts sociales, parce qu'on est bien là-dessus, sur les entrées et sorties, c'est dans notre jargon, les entrées et sorties des coopérateurs. Et effectivement, la question de comment, dans la durée, faire échapper le bien, la coopérative, à la spéculation pour les générations futures et encadrer cette cession, c'est quelque chose c'est un petit peu notre cheval de bataille.
Qu'est-ce que vous proposez? Parce que là, il y a un désaccord avec les députés, manifestement. C'est-à-dire, les députés n'ont pas voulu vous suivre, pas totalement jusqu'au bout. Est-ce que pour nous expliquer?
Alors, je crois qu'ils étaient plutôt partagés. Je ne sais pas si c'est par manque d'informations, mais effectivement, il y a la question de pouvoir encadrer le prix de cession des parts sociales du coopérateur selon un indice qui reflèterait le coût de la vie et qui permettrait, en fait, pour donner un exemple, à un coopérateur qui a mis dans le pot commun un apport initial, je vais dire un chiffre au hasard, de 10 000 euros aujourd'hui, mais qui, pour une raison X ou Y, sort de la coopérative dans deux ans.
Il le retrouve bonifié par l'indice du coût de la vie.
Au coût de la vie et non pas selon le marché, la valeur du marché immobilier, mais quand même pour qu'il retrouve le même pouvoir d'achat qui lui permettrait de se reloger parce qu'il quitte la coopérative. Et donc pour cela, il fallait absolument que le statut des coopératives d'habitants inscrits dans la loi prévoient cet encadrement et du coup garantissent la spéculation. Et effectivement, il y a eu des échanges entre parlementaires sur ces questions-là et qui sont aujourd'hui pas tout à fait tranchés.
C'est ça.
Effectivement.
Oui, parce que c'est votre la volonté de l'habitat coopératif, participatif, appelons-le comme on veut, c'est précisément de se mettre à l'abri, à tous les sens du terme, se mettre à l'abri de la spéculation immobilière qui a produit tant d'effets dévastateurs de gentrification des centres-villes, de relégation et des effets surtout qui sont non maîtrisés, Geoffroy Valadon.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est décisif, ce plafonnement. Et en fait, qui permet d'éviter, comme vous dites, tous ces effets délétères, gentrification, etc. Et de manière plus générale, si on veut présenter le problème, en fait, c'est ce que certains appellent un transfert de dette intergénérationnel. Lorsque on suit l'évolution du cours du marché, là, qui en 15 ans a pris 240%, oui. Alors que l'inflation était de 24%, c'est les générations d'aujourd'hui qui payent en fait la plus-value immobilière de ceux qui ont acheté il y a 15 ans. Et si on continue dans ce système-là, nos enfants à nous devront nous payer à notre tour ces intérêts. Le problème, c'est que ce n'est pas simplement nos enfants. Ce sont certaines
classes
sociales,
etc. Il y en a qui sont
enrichis
aussi, bien sûr.
Voilà, ce n'est pas uniforme dans toutes les classes de la société. Et c'est une sorte de pyramide de Ponzi, du coup, complètement légale et à très long terme, où en fait, on alimente sans fin une machine à vide.
Alors vous, ce que vous proposez, c'est de substituer à l'idée de propriété, c'est de retirer finalement l'élément critique nocif de la propriété et dans son lien avec la spéculation immobilière, de façon à revenir à l'idée de bien commun, qui est particulièrement cher à cette émission.
Voilà.
Geoffroy Valadon.
Et je dis revenir parce que historiquement, c'est quelque chose qui a précédé le système de la propriété privée. Au Moyen-Âge, en Europe, le droit d'usage était quelque chose de très commun et c'est à la fin du Moyen-Âge, à l'âge classique, que le système de la propriété privée, ce qu'on appelle l'enclosure, du coup la clôture d'espace et son appropriation juridique est apparu.
La fameuse querelle des enclosures et avec cette tension permanente entre les classes sociales et même véritablement constitutive des classes sociales, à en croire Thompson, en Angleterre, entre l'appropriation des biens communs.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui quelque chose de très novateur, mais qui s'inscrit dans un fil historique qui est non seulement européen, mais mondial, et qui est absolument nécessaire. Il y a une logique de marchandisation générale, de la science, du vivant, etc. Là, ça serait l'occasion de créer des biens communs, et la prouesse, ça serait des biens communs qui, à la différence de l'air, à la différence de la connaissance, etc., requerraient un travail très déterminé, un espace qui est demandé par beaucoup de gens.
Ce sont des biens physiques d'abord.
Voilà, ce sont des biens physiques, ce qu'on appelle des biens rivaux du coup.
Les biens, pardon ?
Des biens rivaux. Les biens communs classiques, ce sont les musiques, le langage, etc., qu'on peut chanter ou parler sans que ça n'enlève la possibilité de le faire à d'autres personnes. La pomme ou la maison, si. Eh bien, grâce à cela, on pourrait réaliser cette prouesse de faire de biens physiques rivaux des biens communs.
Oui, mais alors là, ça veut dire que est-ce que c'est pas trop idéaliste, Sarah Trudel, parce que vous, et je m'adresse un peu à votre expérience d'Abicop, parce que dans le fond, vous voulez vous mettre à l'abri du temps. Vous faites référence au Moyen-Âge, qui était une société qui était très stable et dans lesquelles il y avait peu d'aspirations, il y avait peu d'ascenseur social, on dirait en termes aujourd'hui. Est-ce que vous ne croyez pas, est-ce que votre expérience ne vous enseigne-t-elle pas qu'il y a assez profondément inscrit le désir d'accession à la propriété, un désir que précisément le temps soit cumulatif, alors que dans le droit d'usage, il n'est pas cumulatif. Sarah Trudel.
C'est une vaste question. Du haut de notre modeste expérience, on constate surtout que les projets, l'idée de la coopérative d'habitants attire des personnes de tous horizons, qu'ils soient finalement déjà propriétaires d'un logement, locataires du parc privé, locataires du parc HLM. Et tous n'ont pas eu à un moment donné dans leur vie le désir d'accession à la propriété, mais surtout, ils ont tous fait le constat que pour pouvoir se loger dans des conditions agréables et confortables dans des zones urbaines ou périurbaines dans lesquelles ils ont accès aux transports, aux services, à la culture et à un certain nombre de choses auxquelles tout citoyen peut vouloir aspirer, la question d'accéder à la propriété, pour certains, n'était même pas envisageable. Et pour d'autres, dans des zones beaucoup plus...
Et là, ça le rend possible. L'habitat participatif le rend possible.
L'habitat participatif, en tout cas, est un moyen. Je ne sais pas si c'est pas l'unique, mais c'est un moyen de rendre possible l'accession à la propriété collective, et notamment, surtout, l'accès à un logement.
Mais est-ce que vous n'avez pas constaté, sur le long terme, j'entends maintenant, sur le long terme, vous n'avez peut-être pas la durée d'existence à Abicop suffisante pour regarder le long terme, mais c'est quand même une dimension importante, c'est-à-dire que cette nouvelle définition de la propriété comme propriété d'usage, dans le fond, la question de confiance se trouve à la fin d'un cycle d'habitation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va transmettre? Est-ce que finalement, on est content de ne rien transmettre à ses enfants? Geoffroy Baladon.
Il y a deux éléments dans votre question, je dirais. Le premier, je vais prendre, c'est qu'est-ce qui se passe au terme du remboursement du bien, en fait? Le cas de ce Miethauser Syndicat en Allemagne, Abicop aussi le propose, c'est qu'une fois que le bien est remboursé, du coup, le montant des redevances que les coopérateurs doivent payer chute drastiquement.
Oui, mais sa valeur objective, j'allais dire, elle peut s'accroître en même temps.
Oui, oui. Et au lieu de faire chuter complètement pour simplement payer les frais de fonctionnement, ce que ces projets proposent, ces organisations, c'est d'alimenter un fonds de solidarité qui permet à son tour d'aider et de financer de nouveaux projets. L'intérêt de cette chose-là, c'est que réellement, enfin, les personnes qui arrivent, la deuxième génération qui arrive une fois que le bien est remboursé, eux, n'ont pas le bien offert. Ils continuent à contribuer à la communauté comme l'ont fait les premiers. Et ce que ça permet en plus, c'est que dès lors, quelqu'un qui doit partir et qui effectivement n'a pas un pécule accumulé pour se reloger ailleurs en tant que propriétaire, si on a alimenté une spirale de coopérative d'habitat, il trouvera probablement un autre lieu dans lequel se loger aux mêmes conditions et de la même manière.
Mais ça rappelle un peu la formule du kibbutz. Il y a quelque chose dans la propriété collective et dans le pécule pour partir, sauf que bon, pour le kibbutz, c'était pour retourner à la vie civile, j'allais dire.
Oui, je connais pas assez le kibbutz pour...
Parce que c'est ce qui est intéressant, ce système qui se veut solidaire jusqu'au bout.
Oui.
Et donc qui fait que...
Complètement, dans la durée.
Dans la durée.
Entre les personnes, parce qu'il y a vraiment un effort de mutualisation, et à Bikov, c'est très bien, parce qu'ils appuient là-dessus, c'est que des personnes qui aient des apports au départ puissent rentrer, ce qui est plus facile pour elles, mais c'est très important que des personnes qui n'aient pas d'apport puissent rentrer. Et ça, c'est une solidarité intentée, horizontale, mais aussi verticale.
Verticale. Mais ça veut dire qu'il y a, là aussi, un rapprochement à faire avec l'impôt, qui serait une véritable contribution solidarité et qui assure cette répartition des risques sur plusieurs générations et sur une collectivité plus grande.
Oui, c'est vrai que ces projets-là s'inscrivent de fait dans la durée, se veulent accessibles à tous, quand je dis à tous, c'est à tous les revenus, mais également dans la dimension mixité, intergénérationnelle, sociale, parce qu'on est sur des financements qui sont très longs. Il n'est pas question que, pour nous, que la personne qui est, comme le disait Geoffroy, qui a un apport important, le pionnier qui a un apport important, lorsqu'il s'en va, il n'est pas question que le suivant soit obligé d'avoir ce même apport. Et là, il y a encore un travail à faire, parce que je dirais la loi Allure, c'est un premier pas, c'est une première victoire, mais derrière, il y a tout un travail à faire également sur les outils financiers à trouver.
Quelle est l'attitude des banques vis-à-vis de vous ? Est-ce qu'il y a des banques qui jouent le jeu ? Est-ce qu'il y a des banques solidaires qui jouent le jeu de l'habitat participatif ?
Oui, il y a une bienveillance de tout un secteur, je dirais, justement, en plus coopératif mutualiste, parce que c'est un peu dans
leur... Qui est assez fort en France, d'ailleurs.
Qui est assez fort, et c'est un peu dans leur ADN aussi. Oui. Il y a aussi beaucoup d'interrogations de leur part, parce que ça questionne leur façon de faire, leur modèle économique, et puis ils ont également accepté de financer des projets expérimentaux, donc c'est déjà très porteur d'espoir. Mais il y a aussi un travail à faire avec Bercy, la Caisse des dépôts et consignations, avec lesquels on a déjà beaucoup travaillé, on a fait des approches.
Est-ce que les politiques écoutent ça d'une bonne oreille?
Je crois que c'est un sujet qui... globalement fait consensus et qui mérite peut-être un travail de notre part, un monde associatif de pédagogie, d'essaimage et d'éclairage, parce que c'est le logement, dès qu'on touche à ces questions-là, c'est éminemment technique et au-delà de l'idée, de la philosophie, on se heurte à des tonnes de règles, un millefeuille administratif assez complexe, mais on a... jamais eu de porte-close ou de malveillance à notre égard.
C'est ça, parce qu'en fait, si j'ai bien compris ce projet, c'est que vous voulez, Geoffroy Valadon, diversifier, pluraliser les manières d'habiter, mais aussi les manières, on pourrait dire plus profondément, les manières d'être au monde, c'est-à-dire avec des poches de solidarité autogérées au sein d'une même ville, d'une même cité.
Oui, complètement. Donc ça, c'est quelque chose que l'habitat participe fait déjà, d'une certaine manière, et très largement. Mais ce que rajoutent les coopératives d'habitat, c'est cette dimension proprement coopérative, donc avec toutes les valeurs d'éducation populaire, de solidarité, de démocratie, et antispéculative. Et même plus loin qu'antispéculative, qui était le moment sur lequel on essayait de faire avancer l'Assemblée, c'est même la sortie du marché, qui n'est pas prévue par la loi, mais qui est rendue possible.
Disons. Alors, qui est rendue possible. Mais finalement, est-ce qu'une conclusion de ça, c'est une question que je vous pose à tous les deux, est-ce qu'il n'est pas difficile de sortir du marché, comme de sortir du droit d'ailleurs, hein. Vous parliez des hackers, d'une sorte de hacking du logement au départ, et qui rentrent progressivement via la coopérative d'habitat dans le droit. Est-ce que c'est possible de sortir aujourd'hui du marché?
Ah, je crois complètement. L'analogie est assez frappante avec le copyleft dans le domaine de la propriété intellectuelle, où le copyright a été détourné, hacké par des hackers, puisque c'était vraiment des bidouilleurs informatiques, pour créer une propriété collective et un bien commun immatériel. Là, il s'agit d'un bien commun immatériel.
Un dernier mot, Sarah Trudel. Merci. On restera sur cette conclusion, Geoffroy Valadon. Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épiné, à la réalisation Viviane Noël et à la technique Tristan Gratalon. Je vous rappelle que vous pouvez
pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, à la page du bien commun, pendant 3 ans, la télécharger pendant même 1 an, et vous consulterez les références nombreuses à notre débat d'aujourd'hui. Et tout de suite, place à Question d'éthique, l'émission de Monique Cantos-Pervert.